au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous sommes de retour avec Philippe et ton premier bloc. Tu vas nous parler de Maserati.
Avec grand plaisir. Hein? On le disait en début d'émission, Daniel, là, s'il existe une sainte trinité dans l'industrie automobile, elle est assurément italienne et elle est composée de Ferrari, Maserati et Lamborghini. Ouais. Et bon, comme le savent ceux et celles qui fréquentent mon site ou ma page Facebook, je suis un grand amoureux de l'Italie. Et de ses voitures. Alors, je vous propose donc, aujourd'hui, les deux premiers volets de ce que j'ai appelé ma trilogie italienne. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur mon site www.philippelagu.com en même temps que vous écoutez l'émission, parce que toutes les photos des marques dont on parle aujourd'hui sont là, tous les modèles importants, et en plus, vous avez un résumé écrit là, de nos deux sujets d'aujourd'hui. Donc là, vraiment, on fait de la convergence, Daniel.
C'est parfait. Ça.
Et j'ai choisi de commencer par Maserati parce que c'est une chronique historique. Et la chronologie, c'est important dans une démarche historique. Alors, c'est Maserati qui est la plus ancienne des trois marques. Elle a fêté son centenaire en 2014. Et c'est son ancienneté qui lui vaut le privilège, donc, d'être la première dont on va parler. Et contrairement à Ferrari ou Lamborghini, Maserati, c'est pas l'affaire d'un seul homme, mais d'une fratrie. Rodolfo Maserati et son épouse Carolina ont 7 fils qui sont tous nés à Voghera, en Lombardie. L'un d'entre eux, Alfieri, va mourir à l'âge d'un an, mais le bébé suivant va se voir attribuer le même prénom. Puis vous allez voir, c'est un prénom qui est important dans l'histoire de Maserati, puis il va peut-être être même important dans le futur de Maserati, parce qu'on a un prototype qui porte ce nom-là depuis quelques années, puis on ne sait pas trop, il va-t-il aller en production ou pas, enfin. Alors, le paternel, le père des frères Maserati, est le conducteur du train du roi d'Italie. Puis c'est aussi un passionné de mécanique, puis il va transmettre sa passion à ses fils en les amenant régulièrement dans sa locomotive. Alors, la graine est semée à ce moment-là parce que 5 des 6 frères Maserati deviennent des ingénieurs en mécanique. Et l'artiste de la famille, Mario, qui est peintre et dessinateur, va contribuer lui aussi à la future entreprise familiale en dessinant son emblème, le célèbre Trident. L'inspiration lui vient d'une statue, de Neptune qui trône au milieu d'une fontaine au centre de Bologne, là, dans un parc, qui est tout près de l'atelier de ses frères. Puis Neptune incarne la force et la puissance, et sa statue est un des symboles de la ville de Bologne. Les autres frères, eux, ont vraiment les deux mains dedans, là, comme on dit. Ils construisent, ils réparent, ils pilotent même des voitures de course. L'aîné des frères, Carlo Maserati, travaille d'abord chez Fiat, puis chez Isotta Fraschini. Ça, Daniel, ça te sonne peut-être une cloche. C'est une marque vraiment très prestigieuse là, de l'entre-deux-guerres. Et chez Isotta Fraschini, ben, c'est il y a... Un à un, ses frères vont aller le rejoindre là. Alors Alfieri, Bindo, Ernesto et Ettore Maserati vont tous travailler à un moment ou à un autre là, pour Isotta Fraschini. La tuberculose va emporter Carlo en 1910. L'entreprise familiale, qui est devenue un atelier spécialisé dans la préparation de voitures de course, va voir le jour, elle, 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 1914, à Bologne. Mais 1914, c'est aussi le début de la Première Guerre mondiale et les frères Maserati sont appelés sous les drapeaux, à l'exception d'Ernesto qui, lui, s'occupe de la gestion de l'atelier familial. Mais l'atelier a été converti en usine de fabrication de bougies d'allumage pour les véhicules militaires. Après la guerre, l'entreprise va retrouver sa vocation originelle, c'est-à-dire que les frères Maserati recommencent à construire des moteurs et des voitures de course, d'abord pour Isotta Fraschini et ensuite pour Diato, alors deux marques italiennes qui sont aujourd'hui disparues. Il faut dire que Alfieri Maserati a aussi des talents de pilote et il remporte plusieurs épreuves au volant des bolides là, qu'il prépare avec ses frères. Et ça, ça aide à se faire un nom. Hein?
Ben oui.
Et le grand pas, ben, il va être franchi en 1926. Alfieri Maserati décide alors de devenir constructeur avec, évidemment, le soutien indéfectible de ses frères. La première Maserati est une voiture de Grand Prix. On n'avait pas de... La Formule 1 n'existait pas à l'époque, on appelait ça des Grands Prix. Alors, la première Maserati est une voiture de Grand Prix motorisée par un V8, un petit V8, hein, 1,5 litres avec un compresseur et elle est baptisée Tipo 26 parce que c'est l'année de sa naissance. Et 2 ans plus tard, Alfieri va subir un grave accident en course et il va finalement mourir de complications liées à ses blessures en 1932. Et ça, c'est un dur coup pour les frères Maserati parce qu'ils viennent en quelque sorte de perdre leur leader. Et là, c'est Bindo Maserati qui était resté, lui, chez Isotta Fraschini, où il a travaillé pendant 20 ans, qui revient prendre les rênes de l'entreprise familiale à titre de président. Ses deux frères, deux de ses frères, Ettore et Ernesto, se voient confier respectivement la direction technique et financière. Mais malheureusement, les trois frères sont peut-être des très bons ingénieurs, mais pas de très bons gestionnaires. Et finalement, ben, ils vendent leur part en 1937 à la famille Orsi. Ça, ce sont des industriels de Modène. Et par contrat, les frères Maserati vont rester liés à l'entreprise pour 10 ans. Pour s'occuper du volet technique. Et Adolfo Orsi, lui, devient le nouveau président de Maserati. Et comme c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, ben, on déménage aussi les ateliers Maserati à Modène en 1940. Et c'est là que sont construites les Maserati depuis ce temps, donc depuis 1940. Et bien, entre-temps, Maserati continue de s'illustrer sur les circuits parce qu'on l'oublie trop souvent, mais la marque italienne a remporté les 500 000 d'Indianapolis 2 années d'affilée, en 1939 et en 1940. Et là, la Deuxième Guerre mondiale va éclater et Maserati va se consacrer de nouveau à la fabrication de bougies pour les véhicules militaires. Alors, c'est comme un peu le jour de la marmotte, mais version automobile, là. Puis après la guerre, ben le contrat des frères Maserati prend fin. Hein, c'est un contrat de 10 ans et le contrat prend fin en 1947 précisément. Et là, les frères Maserati quittent l'entreprise qui porte leur nom pour fonder Osca à San Lazzaro. Ça, c'est en périphérie de Bologne. Ça, c'est une aventure, là, Osca. C'est une aventure qui va durer à peu près 20 ans, pendant lesquelles, les 20 années pendant lesquelles les trois frères vont développer un nouveau créneau, celui des voitures de course et des voitures sport à petite cylindrée. Ce qui les empêche pas d'ajouter quand même hein, les 12 heures de Sebring à leur palmarès en 1954 grâce au talent du légendaire pilote britannique Stirling Moss. D'ailleurs, les plus grands pilotes ont couru pour Maserati, les plus grands pilotes de l'époque, à commencer par Stirling Moss et bien sûr Fangio, qui a été champion du monde en 1957 avec Maserati. Sauf que pendant ce temps-là, Maserati, sous la gouverne d'Adolfo Orsi, décide de se retirer de la compétition là, au début des années 60 pour se reconvertir, pour vraiment là, s'en tenir à la fabrication de voitures de sport routières, les fameuses GT de l'appellation italienne Gran Turismo. Alors, la 3500 GT est lancée en 1957 et c'est la première d'une longue série de GT qui vont faire la renommée de celle qu'on appelle maintenant la firme de Modène depuis son déménagement. Comme Lamborghini et Ferrari, ben, la marque au trident a aussi traversé des années tumultueuses. Hein. Elle a survécu à plusieurs changements de propriétaires dans les années 70, 80, 90. Parmi ceux qui ont été propriétaires de Maserati, on peut mentionner Citroën, on peut mentionner De Tomaso, on peut mentionner aussi Chrysler. Mais depuis 1993, Maserati fait partie de l'empire Fiat qui contrôle le groupe FCA, Fiat Chrysler. Alors là, c'est l'inverse. Là. C'est Maserati maintenant qui a absorbé, en fait, Maserati qui est une des composantes de Fiat qui a absorbé Chrysler. Faut mentionner en terminant qu'Alfa Romeo et Ferrari font également partie de l'empire FCA. Alors, c'est quand même un portefeuille
mais
de marque.
Mais pour combien de temps?
Ah, ça, c'est la grande question. Mais quand même, faut mentionner une chose, Daniel. Depuis l'arrivée de Fiat dans le portrait, les affaires roulent quand même assez rondement. Hein, parce que Maserati, au tournant là, du 21e siècle, au début des années 2000, Maserati ne fabriquait même pas 2000 voitures par année. Et l'année passée, ça a été une année de production record avec 42 000 véhicules. Alors, je serais surpris que Maserati disparaisse. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce que Sergio Marchionne va faire avec les marques de FCA, c'est ça?
C'est ça. Est-ce qu'on ne se débarrassera pas d'une division? Est-ce que Maserati pourrait être intéressant pour un autre constructeur? On ne le sait pas parce que l'histoire le dit, là, souvent des constructeurs comme ça, des plus petits constructeurs de prestige se font racheter et joignent un autre groupe. Est-ce que Maserati pourrait rejoindre un autre groupe? Est-ce que Ferrari pourrait rejoindre un autre groupe?
Moi, je pense que Ferrari a les reins assez solides pour rester indépendant. Ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'Alfa Romeo et Maserati vont devenir. Est-ce que ça pourrait être incorporé, relié à Ferrari? Est-ce que ça pourrait... Tu sais qu'il y a eu des grosses rumeurs de rachat par Volkswagen, surtout dans le cas d'Alfa Romeo. Alors, l'histoire continue de s'écrire en attendant, mais on peut quand même dire que Maserati ne s'est jamais aussi bien porté.
Et voilà. Deuxième bloc.
Avec un VUS en plus dans sa gamme, ça aide toujours à survivre aussi. Porsche l'a montré.
Absolument. Alors, on se reparle tantôt. Merci, Philippe.
On se parle de Lamborghini tantôt.
Oh, Lamborghini.
Ciao.
Voilà. On arrête et on...
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco.
Auto 360
avec Daniel Boudreau. Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Bon, nous voilà de retour, enfin de retour, et Philippe Lagu est là. Il y a quelques instants, Philippe nous a parlé de Maserati, et on va rester pas tout à fait trop loin, je pense, un de l'autre. Et là, cette fois-ci, Philippe, c'est Lamborghini.
On reste même proche géographiquement parlant.
C'est ça.
Parce que Maserati, on est à Modène, et Lamborghini, on est à Sant'Agata, qui est juste à côté de Bologne. Donc, c'est à peu près pour une demi-heure de route. Et s'il y a une marque qui m'a fait rêver dans ma jeunesse, Daniel, c'est Lamborghini. À cause de deux modèles en particulier, on va y revenir, des modèles d'ailleurs dont le design a marqué l'histoire de l'automobile, il y avait chez Lamborghini une audace, puis je dirais même un côté iconoclaste, qu'on voyait pas chez Maserati et chez Ferrari, qui était plus conservateur. Et d'ailleurs, chez Maserati et chez Ferrari, on regardait Lamborghini de très haut au début. Hein. Ils ont vite déchanté, par exemple.
Ben là, ils ont eu raison, parce qu'à leur tout début, ils fabriquaient pas des autos, là.
Ouais, ben justement. Bon, on commence par le commencement et c'est là que tu m'amènes. Au tournant des années 60, Ferruccio Lamborghini est un riche industriel italien dans la quarantaine qui a fait fortune en construisant notamment des tracteurs. Des tracteurs qui portent son nom. Mais bon, c'est un entrepreneur, il est aisé, il a des moyens, et c'est aussi un amateur de belles voitures aux mécaniques sophistiquées, et il roule avec ce qu'il se fait de mieux à l'époque. Alfa Romeo, Lancia, Maserati, mais il y a aussi une Mercedes 300 SL, une Jaguar type E, bref, Ferruccio aime le beau.
Oui, c'est
hein?
ça.
hein? Ouais. Puis il roule aussi en Ferrari, mais il est exaspéré par leurs caprices. Puis il va d'ailleurs s'en plaindre directement à Enzo Ferrari. Pas de niaisage, il va aller le voir directement à son bureau. Faut dire que Lamborghini habite tout près à Modène. Et il n'est pas du tout intimidé par Enzo Ferrari. Parce qu'Enzo Ferrari jouait beaucoup là-dessus aussi, hein, imposant personnage, ses lunettes noires tout le temps et tout ça. Avec Ferruccio Lamborghini, ça marche pas du tout, du tout. Il se considère comme l'égal de Ferrari. Ce sont d'ailleurs deux entrepreneurs qui ont réussi dans la vie. Ils ont d'ailleurs tous les deux été anoblis du titre de commendatore par le gouvernement italien en raison de leur réussite. Alors, le grand seigneur de Maranello, M. Ferrari, considère son client plutôt comme un parvenu et le traite avec mépris. Selon la légende, il aurait répondu, et là j'ouvre les guillemets, « Lamborghini, vous êtes peut-être capable de conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais conduire une Ferrari convenablement. »
Oh boy!
Autrement dit, le problème est entre le siège et le volant. Et si c'est vrai, s'il a vraiment dit ça, Enzo Ferrari, ben il va regretter cette phrase pour le restant de ses jours. Parce que Ferruccio Lamborghini, lui, il est piqué au vif et il décide à partir de ce moment-là de construire ses propres voitures, rien de moins. Et en jurant, bien sûr, qu'elles vont être meilleures que les Ferrari. Et comme il a les moyens de ses ambitions, bien, il se fait d'abord construire une usine ultramoderne et il va aussi recruter des hommes de talent. Giotto Bizzarini, Gianpaolo Dallara, Paolo Stanzani. Le premier, là, Giotto Bizzarini, il jouit déjà, lui, d'une solide réputation parce qu'il a participé à la conception de la légendaire Ferrari 250 GTO, qui est une machine à ce moment-là imbattable sur les circuits. Là. Puis les deux autres, Daniel, et là ça devient intéressant, les deux autres, c'est des jeunes coqs. Dallara, lui, arrive de chez Maserati, mais il est dans la mi-vingtaine. Paolo Stanzani sort tout juste d'une université. Et à partir de là, tu vas voir, les affaires ne traînent pas. La société Lamborghini voit officiellement le jour le 1er juillet 1963 à Santa Gata, qui est un minuscule village là, à mi-chemin entre Bologne et Modène. Et son premier modèle, la 350 GT, est présenté en mars 1964. C'est pas long, ça, là.
Ça a été vite.
Hein? Au Salon de Genève, comme le seront d'ailleurs toutes les Ferrari par la suite. Et ça, c'est une GT qui est magnifique, qui a été dessinée par Franco Scaglione, mais qui est de facture assez classique, autant dans ses formes que dans son architecture.
Ouais, c'est pas aussi exubérant qu'aujourd'hui.
Non, mais je dirais même que c'est pas aussi exubérant que ce qui s'en vient.
Okay.
Mais bon, elle a quand même tout ce qu'il faut, à commencer par un V12 sous le capot, hein, quand même. Les Maserati, par exemple, n'avaient pas de V12. Mais en même temps, techniquement parlant, il n'y a pas de révolution là. Le coup de tonnerre, là, il va se produire en 1966 avec le lancement de la Miura, qui est une GT spectaculaire dont la conception révolutionnaire va faire école. Sa conception, qui a d'ailleurs été confiée à 4 jeunes intrépides qui n'ont pas encore 30 ans, là. Gianpaolo Dallara et Paolo Stanzini, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi le Néo-Zélandais Bob Wallace, qui devient le pilote essayeur attitré de Lamborghini, et le designer Marcello Gandini, qui est l'étoile montante de la prestigieuse maison Bertone, hein, les fameux studios de design italiens. Alors, Ferruccio Lamborghini, lui, au début, il trouve le projet beaucoup trop audacieux, mais le quatuor de jeune coq persiste et la maquette de la Miura va finir par convaincre le grand patron. D'ailleurs, si vous regardez sur mon site www.philippelagu.com, vous pouvez voir d'ailleurs une photo de Ferruccio Lamborghini qui tient la maquette dans ses mains. Et quand je dis que c'est une voiture révolutionnaire, regarde, avec son V12 qui est monté transversalement, et qui est placé au centre de la voiture, ça, à l'époque, là, c'était une solution, une architecture qui était réservée seulement aux voitures de course. Et il y a aussi sa carrosserie, qui est aussi moderne que sulfureuse. Hein? Ça a quelque chose de sensuel, une Miura dans son design, et ses performances qui font d'elle la voiture la plus rapide au monde à ce moment-là. Ben, tout ça fait en sorte que la Miura marque un point tournant, non seulement pour Lamborghini, mais pour l'industrie automobile. Parce que dans l'univers des sportives, là, on peut dire, sans se tromper, qu'il y a eu un avant et un après Miura. Et ça, ben, ça va mettre la barre très haute pour sa remplaçante. Mais Lamborghini va frapper un autre grand coup avec la non moins spectaculaire Countach, qui est présentée en 1971 au Salon de Genève. Et juste avec ces deux modèles, Daniel, là, la marque Autoro, le taureau qui est d'ailleurs le signe zodiaque de son fondateur, juste avec la Miura et la Countach, Lamborghini est déjà assuré de passer à l'histoire. Puis la Countach, ben, je pense que ça, on peut vraiment dire que ça a été le poster car d'une génération. Je ne sais pas si tu en avais une dans ta chambre.
Tout le monde a un modèle réduit, en tout cas. Là.
Modèle réduit. Modèle réduit. Là, moi, j'ai 53 ans. Tu as quel âge, toi, Daniel?
5 ans.
C'est ça. Moi, le modèle réduit, c'était plus la Miura. Mais les Countach aussi, là, en modèle réduit, c'était incontournable. Là. Alors, mais ceci étant dit, ça part fort, comme on dit, pour Lamborghini. Mais la suite va être un petit peu plus chaotique. Entre autres, à cause du premier choc pétrolier, hein, 1973, qui va porter vraiment un dur coup là, à toutes les marques qui font des voitures puissantes, là, toutes les marques de voitures exotiques, qu'elles soient italiennes ou anglaises ou peu importe. Il faut dire aussi que l'Italie, dans les années 70, c'est des années mouvementées. Hein, on a appelé ça les années de plomb, et c'est marqué par l'agitation sociale, mais aussi la violence. Parce que là, l'Italie, ils sont pas juste aux prises avec la mafia, ils sont pris avec le terrorisme, et c'est un terrorisme intérieur. L'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Bref, ça brasse en Italie dans les années 70. Et Ferruccio Lamborghini, finalement, va vendre ses parts. En 1973, il va se retirer dans son vignoble, près de Pérouse, où il va mourir d'une crise cardiaque en 1993, à l'âge de 76 ans. Entre-temps, ben, la société Lamborghini a vécu, elle aussi, des années chaotiques. Hein? Elle a changé de main une demi-douzaine de fois, il faut le dire. Et finalement, ben, la situation s'est stabilisée depuis son acquisition en 1998 par le groupe Volkswagen, qui l'a placé sous la gouverne d'Audi. Et depuis, Ben, Lamborghini, il faut le dire, hein, c'est jamais aussi bien porté, avec des modèles qui continuent de frapper l'imagination et une production qui est en lente mais constante progression. Hein. On tient ça quand même en bas de 5000 là, pour garder vraiment, j'allais dire l'exclusivité, mais je pourrais même dire l'ultra-exclusivité, parce que Lamborghini produit moins de voitures que Ferrari. Et dire que tout ça a commencé, selon la légende, avec une phrase mal placée d'Enzo Ferrari à l'endroit d'un de ses clients. Hein, quand même.
Ben oui, un constructeur de tracteurs.
Mais qui aujourd'hui fait des voitures qui font rêver tout le monde, même les...
D'un extrême à l'autre.
Oui, puis même les chroniqueurs automobiles comme toi et moi qui ont la chance de conduire des très, très belles voitures. Une Lamborghini, on n'est pas insensible.
Ça reste une Lamborghini.
Ça reste une Lamborghini, que c'est bien dit.
Merci beaucoup, Philippe.
Ben, c'est un
on
plaisir,
se
Daniel.
La semaine prochaine. Bien gentil à toi.
C'est le cas de le dire. Ciao.
Ciao, ciao. On revient.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Une petite pause. On revient ensuite. Restez là.